Architecte pour ceux qui cherchent la connaissance. Il faudra reconnaître un jour, et bientôt peut-être, ce qui manque à nos grandes villes. Des endroits silencieux, spacieux et vastes pour la méditation, pourvus de hautes et longues galeries pour le mauvais temps et le temps trop ensoleillé, où le bruit des voitures et le cri des marchands ne pénétreraient pas, où une subtile convenance interdirait même aux prêtres la prière à haute voix. Des constructions et des promenades qui exprimeraient par leur ensemble ce que la méditation et l'éloignement du monde ont de sublime. Le temps est passé où l'Église possédait le monopole de la réflexion, où la vita contemplativa devait toujours être avant tout vita religiosa. Et tout ce que l'Église a construit exprime cette pensée. Je ne sais pas comment nous pourrions nous contenter de ces monuments, même s'ils étaient dégagés de leur destination ecclésiastique. Les monuments de l'Église parlent un langage beaucoup trop pathétique et trop étroit. Ils sont trop les maisons de Dieu et les lieux d'apparat des relations supraterrestres pour que, nous autres impies, nous puissions y méditer nos pensées. Nous voudrions nous voir traduits nous-mêmes en pierre et en plantes, nous promener en nous-mêmes, lorsque nous circulerions dans ces galeries et ces jardins. Savoir trouver la fin. Les maîtres de première qualité se reconnaissent en ceci que, pour ce qui est grand comme pour ce qui est petit, ils savent trouver la fin d'une façon parfaite, que ce soit la fin d'une mélodie ou d'une pensée, que ce soit le cinquième acte d'une tragédie ou d'un acte de gouvernement. Les musiciens de second ordre s'énervent toujours vers la fin et ne s'inclinent pas vers la mer avec un rythme simple et tranquille, comme par exemple la montagne près de Portofino, là-bas où l'abbé de Gênes finit de chanter sa mélodie. L'allure. Il y a des manières de l'esprit par quoi même de grands esprits laissent deviner qu'ils sortent de la populace ou de la demi-populace. C'est surtout l'allure et la marche de leur pensée qui les trahit. Ils ne savent pas marcher. C'est ainsi que Napoléon, lui aussi, à son profond déplaisir, ne sut pas se mettre au pas princier et légitime dans les occasions où l'on devait s'y entendre, comme par exemple les grandes processions de couronnement et les cérémonies analogues. Là aussi, il fut toujours seulement le chef d'une colonne, tout à la fois fier et brusque et conscient de cela. On ne manquera pas de rire en regardant ces écrivains qui font bruire autour d'eux les amples vêtements de la période. Ils veulent cacher leurs pieds. Les hommes qui préparent. Je salue tous les indices de la venue d'une époque plus virile et plus guerrière qui mettra de nouveau en honneur la bravoure avant tout. Car cette époque doit tracer le chemin d'une époque plus haute encore et rassembler la force dont celle-ci aura besoin un jour pour introduire l'héroïsme dans la connaissance et faire la guerre pour l'amour de la pensée et de ses conséquences. Pour cela, il faut maintenant des hommes vaillants qui préparent le terrain, des hommes qui ne pourront certes pas sortir du néant, et tout aussi peu du sable et de l'écume de la civilisation d'aujourd'hui et de l'éducation des grandes villes. Des hommes qui, silencieux, solitaires et décidés, s'entendent à se contenter de l'activité invisible qu'ils poursuivent. Des hommes qui, avec une propension à la vie intérieure, cherchent pour toute chose ce qu'il y a à surmonter en elle. Des hommes qui ont en propre la sérénité, la patience, la simplicité et le mépris des grandes vanités, tout aussi bien que la générosité dans la victoire et l'indulgence à l'égard des petites vanités de tous les vaincus. Des hommes qui ont un jugement précis et libre sur toutes les victoires et sur la part du hasard qu'il y a dans toute victoire et dans toute gloire. Des hommes qui ont leur propre fête, leur propre jour de travail et de deuil, habitués à commander avec la sûreté du commandement, également prêts à obéir lorsque cela est nécessaire, également fiers dans l'un et l'autre cas, comme s'ils suivaient leur propre cause. Des hommes plus exposés, plus terribles, plus heureux. Car, croyez-moi, le secret pour moissonner l'existence la plus féconde et la plus grande jouissance de la vie, c'est de vivre dangereusement. Construisez vos villes au pied du Vésuve. Envoyez vos vaisseaux dans les mers inexplorées. Vivez en guerre avec vos semblables et avec vous-même. Soyez brigands et conquérants. Tant que vous ne pouvez pas être dominateur et possesseur, vous qui cherchez la connaissance. Bientôt, le temps passera où vous vous satisferez de vivre caché dans les forêts comme des cerfs effarouchés. Enfin, la connaissance finira par étendre la main vers ce qui lui appartient de droit. Elle voudra dominer et posséder, et vous le voudrez avec elle. La foi en soi-même. Il y a en général peu d'hommes qui aient la foi en eux-mêmes. Et parmi ce petit nombre, les uns apportent cette foi en naissant, comme un aveuglement utile, ou bien un obscurcissement partiel de leur esprit. Quel spectacle s'offrirait à eux s'ils pouvaient regarder au fond d'eux-mêmes. Les autres sont obligés de l'acquérir d'abord. Tout ce qu'ils font de bien, de solide, de grand, commence par être un argument contre le sceptique qui demeure en eux. Il s'agit de convaincre et de persuader celui-ci. Et pour y parvenir, il faut presque du génie. Ce sont les grands insatisfaits d'eux-mêmes. Excelsior! Tu ne prieras plus jamais. Tu n'adoreras plus jamais. Plus jamais tu ne te reposeras à une confiance illimitée. Tu te refuseras à t'arrêter devant une dernière sagesse, une dernière bonté, une dernière puissance et à déharnacher tes pensées. Tu n'auras pas de gardien et d'amis de toute heure pour tes 7 solitudes. Tu vivras sans avoir une échappée sur cette montagne qui porte de la neige sur son sommet et des flammes dans son cœur. Il n'y aura plus pour toi de rémunérateur, de correcteur de dernière main. Il n'y aura plus de raison dans ce qui se passe, plus d'amour dans ce qui t'arrivera. Ton cœur n'aura plus d'asile où il ne trouve que le repos sans avoir rien à chercher. Tu te défendras contre une paix dernière. Tu voudras l'éternel retour de la guerre et de la paix. Homme du renoncement, voudras-tu renoncer à tout cela? Qui t'en donnera la force? Personne encore n'a jamais eu cette force. Il existe un lac qui un jour se refusa à s'écouler et qui projeta une digue à l'endroit où jusque-là il s'écoulait. Depuis lors, le niveau de ce lac s'élève toujours davantage. Peut-être ce renoncement nous prêtera-t-il justement la force qui nous permettra de supporter le renoncement même. Peut-être l'homme s'élèvera-t-il toujours davantage à partir du moment où il ne s'écoulera plus dans le sein d'un Dieu. Digression. Voici des espoirs. Mais que serez-vous capable d'en voir et d'en entendre si, dans votre âme, vous n'avez pas vécu la splendeur des flammes et de l'aurore? Je ne puis que faire souvenir, et pas davantage. Remuer des pierres, changer les animaux en hommes, est-ce cela que vous voulez de moi? Hélas, si vous êtes encore des pierres et des animaux, cherchez d'abord votre Orphée. Joie de l'aveuglement. Mes pensées, dit le voyageur à son ombre, doivent m'indiquer où je me trouve, mais elles ne doivent pas me révéler où je vais. J'aime l'ignorance de l'avenir et je ne veux pas périr à m'impatienter et à goûter par anticipation les choses promises. État d'âme élevé. Il me semble que, d'une façon générale, les hommes ne croient pas à des états d'âme élevés si ce n'est pour des instants, tout au plus pour des quarts d'heure, exception faite de quelques rares individus qui, par expérience, connaissent la durée dans les sentiments élevés. Mais être l'homme d'un seul sentiment élevé, l'incarnation d'un unique grand état d'âme, cela n'a été jusqu'à présent qu'un rêve et une exaltante possibilité. L'histoire n'en donne pas encore d'exemples certains. Malgré cela, il se pourrait qu'elle mit un jour au monde de tels hommes. Cela arrivera lorsque sera créée et fixée une série de conditions favorables que maintenant le hasard le plus heureux ne saurait réunir. Peut-être que, chez ces âmes de l'avenir, cet état exceptionnel qui nous saisit, ça et là en un frémissement, serait précisément l'état habituel. Un continuel va-et-vient entre haut et bas, un sentiment de haut et de bas, de monter sans cesse des degrés et en même temps de planer sur des nuages. Sur les vaisseaux. Si l'on considère comment agit sur chaque individu la justification générale et philosophique de sa façon de vivre et de penser, c'est-à-dire comme un soleil qui brille exprès pour cet individu, un soleil qui réchauffe, bénit et féconde, combien cette justification rend indépendant des louanges et des blâmes, satisfait, riche, prodigue en bonheur et en bienveillance, combien elle transmute sans cesse le mal en bien, fait fleurir et mûrir toutes les forces et empêche de croître la petite et la grande mauvaise herbe de l'affliction et du mécontentement, on finira par s'écrier sur un ton de prière « Oh ! Que beaucoup de ces nouveaux soleils soient encore créés. Les méchants, eux aussi, les malheureux, les hommes d'exception, doivent avoir leur philosophie, leur bon droit, leur rayon de soleil. Ce n'est pas la pitié pour eux qui est nécessaire. Il faut que nous désapprenions cette inspiration de l'orgueil en dépit de tout ce que l'humanité en a appris pour y être exercée depuis si longtemps. Nous n'avons pas à instituer pour eux des confesseurs, des exorcistes et des donneurs d'absolution. C'est une nouvelle justice qui est nécessaire. et une nouvelle sanction. Il est besoin de nouveaux philosophes. La terre morale, elle aussi, est ronde. La terre morale, elle aussi, a ses antipodes. Les antipodes, eux aussi, ont droit à l'existence. Il reste encore un autre monde à découvrir, et plus d'un. Sur les vaisseaux, vous autres philosophes !